n'oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui.
Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Mais toi, c'est t'as un petit peu un voleur aussi! Elle va porter plainte pendant qu'on y est!
Vous voulez porter plainte?
Je passe l'éponge.
Un iceberg, droit devant!
Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
Plan séquence.
Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Va mieux que jamais, même.
Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés?
Sur Radio Campus Tour.
Je suis ton père.
T'es incapable de m'aimer. Incapable de m'aimer.
Petite saloperie de païen communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je te détripe moi un coup de pompe, tu m'entends? Alors dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge, dis-le, mon guignol!
Chef négatif, chef!
Chut! Comme c'est joli. Y'a Bambi qui fait dodo.
Tous les jeudis soirs.
Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
Cinglé! Ah, c'est ça? Ah, tu me crois givré à mort!
Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, y a pas de hasard.
Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM, votre émission cinéma du jeudi soir. On va vous parler film voilà, sorti cette semaine, on va vous parler, voilà, j'ai un petit souffle dans le micro, je ne sais pas si vous l'entendez, C'est assez perturbant. On va voir d'où ça vient, j'espère que vous ne l'entendez pas forcément derrière votre poste. On va vous parler, comme je l'ai dit, des films qui sont sortis hier et on vous passera notamment une interview de Stéphane Brisé que Pierre a réalisé au studio le mois dernier, le réalisateur hors saison. Mais on ne parlera pas que de ça, on parlera d'un film, Sarah, que tu as vu la semaine dernière qui s'appelle La jeune fille sans main.
C'est ça, au studio.
C'est ton grand retour ce soir.
C'est mon grand retour. Ouais,
ça faisait
long time no see.
Plusieurs semaines que tu n'étais pas venu. Ça va bien?
Oui, ça va bien. Et toi?
Très bien, très très bien. Pierre, à côté de toi, ça va bien, Pierre?
Ouais, ça roule, ouais. Ça roule.
Et toi, tu as vu la salle des profs, c'est ça?
Ouais, c'est ça. J'ai vu la salle des profs. Du coup, je vous en parlerai juste après.
Très bien. C'est un premier film allemand. Hein.
Alors c'est tout à fait un film allemand et il a été nominé d'ailleurs aux Oscars, enfin pas nominé mais nominé mais pas récompensé aux Oscars du meilleur film étranger pour représenter l'Allemagne du coup.
Ça marche. Et en face de toi Louise, dont ça va être la première chronique, ça va Louise?
Oui, un petit peu stressée.
Ça va bien se passer.
Oui, on espère.
Mais oui, t'inquiète pas, on est tous passés dans cette émission-là pour la première fois, donc t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu vas nous parler de Dune, mais pas celui qui est sorti récemment.
Oui, voilà, je vais essayer de parler de Dune de David Lynch.
Ça marche. Mais avant ce programme, on va passer quelques news. Vous dire ce qu'on n'a pas reçu les organisateurs de ce festival-là, dont c'est déjà la 25e édition. C'est la 25e édition du Festival international du cinéma asiatique de Tours et ça commence ce week-end. Donc il y a une rétrospective. Des films de Isao Takahata, notamment Le tombeau des Lucioles, Mes voisins Yamada, Le conte de la princesse Kaguya, pardon, qui passe là tout au long du week-end et de la semaine. Donc, je vous encourage à regarder le programme complet sur le site internet des studios, parce qu'il y a vraiment beaucoup de films. Il y a Transperceur de Bong Joon-ho, notamment, il y a on pense à Charles qui n'est pas là ce soir, Shin Godzilla, dimanche soir à 21h30. Et ça terminera d'ailleurs la cérémonie de clôture, puisqu'il y a de nombreux films en compétition, par Sidonie au Japon. Et ça sera dimanche 24 mars à 19h30, cette cérémonie de clôture. C'est un film avec Isabelle Huppert. Et c'est un film qui se passe au Japon. Et ça sort le 3 avril prochain. Voilà pour le FICAT. Vous dire aussi que dimanche, lundi, mardi prochain, c'est la fête printemps du cinéma. Donc tous les cinémas, je crois que sans exception, hein, pratiquent le tarif unique à 5 euros pour tous les films. Donc profitez-en, on va vous parler de quelques films ce soir, on vous en a parlé les semaines précédentes. Mais les cinémas ont besoin de spectateurs. même si les entrées pour certains sont en hausse, c'est toujours pas voilà, au même niveau que l'avant Covid. Donc aller dans les salles, elles ont énormément besoin de spectateurs. Et puis vous dire que cette semaine aussi, c'est la fête du court-métrage. Il y a de nombreux cinémas qui participent à cette fête du court-métrage, aussi bien en proposant des avant-programmes que des programmes de court-métrage. Donc pareil, je vous incite à aller voir sur le site lafeteducourtmétrage.com pour voir toutes les séances qui vont être organisées en Touraine. En tout cas, il y a de nombreux cinémas qui participent. Notamment, j'ai vu au CGR, il y a des programmes, et au studio aussi. Et puis dans les petites salles aussi de campagne, il y a aussi des programmes. Voilà pour les news. Je ne sais pas si vous en aviez d'autres. Et on va commencer par l'interview qu'a réalisé Pierre. Tu étais avec RFL 101 aussi il y a au moins 3 semaines, hein, facile.
Au moins. Peut-être un mois.
Et alors, si je retrouve, je l'ai rangé. Paf. Et c'est du coup, le film est sorti hier sur les écrans. Ça s'appelle Hors saison avec Guillaume Canet. Et puis là, vous allez entendre Stéphane Brisé. C'est parti.
Stéphane Brisé.
Bonjour.
Donc on vous reçoit aujourd'hui à la Bibliothèque des Studios pour la sortie de votre prochain film Hors saison, qui sortira le 20 mars prochain. Alors on vous connaît pour des films assez engagés comme La loi du marché, En guerre. En apparence, ce film-là, il semble être un peu, entre guillemets, plus simple dans le dispositif, moins politique. Est-ce que ça vient d'une volonté de changer de registre ?
Alors d'abord, en fait, bon, vous êtes jeune, donc vous n'étiez pas né à l'époque où j'ai fait d'autres films. Mais avant La loi du marché, j'ai quand même fait... J'ai fait Mademoiselle Chambon, j'ai fait Le bleu des villes, Quelques heures de printemps. Je ne suis pas là pour être aimé. Enfin, j'ai fait quand même, avant La loi du marché, j'ai fait 5 films qui étaient sur le couple, la famille, un fils, sa mère, un fils, son père, etc. Donc en fait, sur les 10 films que j'ai fait à ce jour, il y a quand même plus qui ne sont pas politiques, on va dire, que des films politiques. Alors, il se trouve que si j'additionne le nombre d'entrées des films politiques, ça fait plus que les autres. Donc, ça, c'est pour ça qu'on s'en souvient. Et ça a marqué. Donc, j'en suis hyper, hyper ravi, hyper touché de ça. Mais en fait, donc ça a pris une place. Et de fait, il n'y a pas d'avantage sans inconvénient. Ça a peut-être occulté les autres choses qui ont été faites avant, mais qui sont en plus qui n'étaient pas spécialement passées complètement inaperçues. Donc, mais bon, ça a pris sa place. Bon, en même temps, entre La loi du marché et En guerre, j'ai fait l'adaptation de Maupassant aussi. Donc là, vous étiez né à ce moment-là. Donc vous vous en souvenez de ce film-là, qui était de fait pas un film politique. Donc en fait, celui-là n'est pas un film politique, hein, au sens où il ne met pas en fait la problématique du personnage en lien avec le monde, en fait. Hein. C'est une problématique intime qui n'est pas liée au mécanisme du monde. C'est un homme qui ne va pas bien à un moment de sa vie. Et son malaise et sa douleur ne vient pas d'un dysfonctionnement, d'une brutalité du monde. Voilà. Il y a eu, après La loi du marché, En guerre et un autre monde, et Une vie, une forme de, chez moi, en fait, une forme d'abattement, en fait, parce que ces films-là, tous ces films que j'ai fait, ces 4 films, je les ai fait en 6 ans, et finalement, moi, je creuse ce qui m'intéresse, je creuse des questions qui me sont personnelles, et à ce moment-là, c'était vraiment je me suis rendu compte que c'était des films de désillusion. Tous les personnages sont habités par la désillusion à la fin de l'histoire. Il y a quelque chose auquel ils ont cru ardemment, la famille, l'entreprise, le syndicat, et il y a quelque chose qui se casse, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je traverse les mêmes épreuves que mes personnages, finalement, parce que je brasse cette matière-là, finalement, à la première personne, même si après, c'est interprété par des comédiens, mais c'est tout ça, je le fais à la première personne, et moi, j'étais habité par ça. Et puis après, il y a eu le Covid qui est arrivé, qu'on a partagé tous ensemble, c'est-à-dire une expérience dingue, en fait, d'un arrêt du mouvement de tout le monde, où je pense qu'on est chacun s'est retrouvé face à des questions très existentielles, parce que le mouvement de la vie, et on est tous par essence des êtres de mouvement, très souvent le mouvement il nous sert à ne pas regarder. On a un rendez-vous, puis on va là, puis on fait ci, puis on fait ça, puis on regarde son téléphone portable, etc. Et là, on était obligé de se regarder. Et je pense qu'on a fait une expérience intime très forte. Alors même avec, je pense, des décompensations. Je pense qu'il y a des gens qui ont vécu le truc très douloureusement. Moi, c'est un peu mon métier de m'obliger à regarder les choses en face. Et donc, tout ça réuni, et puis le temps qui passe, quand on dépasse les 50 ans, enfin, ou largement même les 50 ans, il y a quelque chose qui se joue aussi sur le temps qui passe. Et en fait, c'est tout ça réuni qui a fait que le courant qui était le mien à ce moment-là, n'était pas un courant guerrier ou un courant politique. Il y avait quelque chose. J'étais un peu, moi, à un moment où c'était les questions qui me traversaient, c'était, j'étais essoufflé, ça c'est une chose. J'étais désillusionné aussi, comme mes personnages. Et donc, immanquablement, mon personnage ne pouvait pas être habité par les mêmes choses. Je ne pouvais pas raconter les mêmes histoires que je venais de raconter. Alors, je reviendrai à un film dit plus politique, mais là, c'était un moment comme la nécessité de reprendre son souffle. Et mon personnage, le personnage que joue Guillaume Canet, c'est un personnage qui est traversé par toutes ces questions qui étaient les miennes à ce moment-là. Est-ce que je suis à la bonne place, avec la bonne personne, au bon moment de ma vie? Est-ce que j'ai fait les bons choix, etc., etc. Et voilà, et j'ai mis ça dans la trajectoire de Guillaume Canet.
Et justement, avant de venir sur le duo que forme Guillaume Canet avec Alba Rohrwacher, je
sais pas Rohrwacher, si je dis bien. Parce que CH ouais. En allemand,
ah,
c'est
Rohr. Ah, je dis mal, pardon.
Ah non, non.
Dites-moi bien son nom, elle est italienne.
Rohrwacher, et comme son nom l'indique, elle est italienne, ouais.
Ouais, c'est pas flagrant.
Son papa est italien.
En plus, elle est tellement blonde aussi dans le film. Non, c'est vrai que, avant de venir à ce duo, donc dans votre nouveau film hors saison... Qui se retrouvent, ils ont eu une histoire d'amour et 15 ans après ils se retrouvent dans cette thalasso où il est venu séjourner pour se reposer. Tout de suite, ce qui m'a frappée, je me suis dit dans vos précédents films, il y a quelque chose qui était très clair, en tout cas dans le choix toujours, enfin très régulier, d'avoir Vincent Lindon, acteur extrêmement engagé pour porter des films politiques et sur le dysfonctionnement du travail, sur le grand patronat. Et puis ce qui m'avait marqué dans le dernier. C'était que Marie Drucker avait un rôle de affreux, hein, de quelqu'un de très dur dans un autre monde. Et là, elle est en fait à la co-scénarisation avec vous de ce film. Elle est pas présente de chair puisqu'on l'entend au téléphone régulièrement puisqu'elle joue la conjointe de Guillaume Canet. Et je voudrais savoir, pour commencer, quelle est cette rencontre avec Marie Drucker, comment ça a commencé, parce que c'était son premier rôle au cinéma dans Un autre monde. Là, elle co-scénarise avec vous, donc c'est quelqu'un de très important, visiblement. J'aimerais en savoir plus.
Bah, c'est toujours intéressant dans la vie quand on croise des gens intelligents, quoi. On a envie de partager du temps avec eux, travailler avec eux. Et en fait, la raison qui a fait que je lui ai proposé d'écrire avec moi... Parce que c'est très singulier. Marie, on la connaissait comme journaliste, elle a présenté le JT, etc. D'un moment, quand j'ai rencontré Marie, la première fois, c'est quelqu'un qui avait arrêté ça. Je lui ai dit, putain, Marie Drucker, elle arrête de présenter le JT, elle devait présenter une autre truc journalistique sur RTL. Donc, à un endroit quand même assez incroyable du monde, puis d'une certaine forme de réussite dont beaucoup de gens rêveraient. Elle arrête ça, elle l'a fait, elle arrête. Waouh, quelle audace cette femme, je ne la connaissais pas encore. Et puis un jour, c'est Marie Drucker, productrice, parce qu'elle était devenue productrice, qui prend les droits d'un bouquin et qui m'appelle pour me proposer d'adapter ce livre. Et ça ne m'intéresse pas mais de faire ce travail-là, mais en tout cas, donc, on se voit pour que je lui en parle. Et puis, bon, le sujet passé, cette chose étonnante qui se passe parfois avec des gens qu'on rencontre, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais en l'occurrence, c'était avec Marie. C'est ce truc très étonnant où, en fait, vous parlez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous avez l'impression que vous connaissez depuis très longtemps. Il y a une sorte de confiance dans le regard de l'autre à ce moment-là qui est incroyable, qui est très étonnant puisqu'on ne se connaît pas. Et pourtant, on va se dire des choses très intimes. Ça ne veut pas dire qu'on parle de notre intimité. C'est-à-dire qu'on va se dire des choses très intimes sur notre regard sur le monde, les hommes, les femmes, le lien... très étonnant et c'est très déroutant comme quand ça se passe parce que c'est assez rare quand même que ça, surtout quand on vient pour un rendez-vous professionnel en fait et je lui dis écoute à la fin du rendez-vous je lui dis écoute Marie on ne se connaissait pas il y a 2 heures on s'est dit des choses en toute confiance comme ça vraiment si un jour j'écris un film sur le couple parce qu'on avait quand même beaucoup parlé du couple je te demanderai d'écrire avec moi si tu veux bien. Et puis, le temps est passé. Entre-temps, on a tourné Un autre monde où elle joue dedans. Et puis après, quand j'ai eu la nécessité d'écrire ce scénario, naturellement, je l'ai appelée. Et puis elle, très audacieuse, très curieuse, elle est venue. Quoi.
Pour revenir à un petit détail que j'avais placé dans cette question sur Marie Drucker, elle a un rôle invisible. Enfin, on voit une photo d'elle, on voit qu'elle est en couple avec Guillaume Canet, mais elle a accepté facilement de cette fois-ci rejouer pour vous, mais uniquement la voix, dans des conversations par téléphone.
Mais oui, parce que Marie, elle n'a pas forcément de velléité d'être actrice. Donc en fait, c'est des expériences qu'elle a accepté de faire avec moi. Et comme on travaillait ensemble à l'écriture, et que je commence à la connaître maintenant en termes de personnalité, voilà, quand ce personnage se développait, il y a un moment assez avancé d'ailleurs dans le travail d'écriture, à un moment je lui dis: écoute Marie, je te connais, mais est-ce que tu accepterais de faire cette femme qui laisse absolument aucun espace à son mec pour qu'il puisse lui exprimer un tout petit peu de ce qui va pas? Et Marie, elle a cette chose qui m'épate, c'est, elle a une forme d'autorité sans jamais hausser le ton. Elle fait partie des femmes puissantes qui, sans jamais hausser la parole, de dire quand même de OK, bon, c'est quoi ton problème? Il y a quelque chose comme ça.
C'est un peu le grand talent des grands journalistes de télévision quand ils sont vraiment bons. Hein.
Oui,
c'est-à-dire qu'ils ont quand même, on voit bien qu'il y a un côté acteur, il y a une façon de placer sa voix, il y a une façon d'être charismatique.
Je vois pas ça là-dedans en fait. Moi, j'y vois un truc de classe en fait, sociale. Ouais. En fait, je pense qu'il y a une forme d'assurance de classe. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que je le lis, d'avoir la certitude d'être né du bon côté du manche et d'avoir la vérité du monde. Et j'y associe. Alors après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Marie, elle en joue de ça. Dans la vie, Marie, elle est, c'est une femme sensible, c'est une femme puissante, puisqu'elle elle est productrice, elle travaille encore à la télé, c'est une femme puissante, mais c'est pas une femme cassante, en tout cas. Et c'est une femme sensible à qui on peut parler de choses intimes. Mais dans ça, j'y vois plutôt l'écho d'une certaine forme de puissance sociale, en fait. L'endroit du monde où on est né, j'y vois plus ça, en fait. Après, il y a pas que ça. Il y a aussi sa personnalité, telle qu'elle est structurée, comment elle a été éduquée, et ça. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai assez plutôt vu chez des gens issus d'un certain milieu social.
Pendant le film, surtout au début du film, dans la première partie, on va dire, j'ai pensé à une certaine influence, et je voulais savoir si c'était votre inspiration ou pas, mais j'ai un peu pensé à Jacques Tati dans l'humour du film. Le rapport au burlesque et à la modernité, entre guillemets, un peu absurde. Et je voulais savoir si c'était effectivement une de vos inspirations.
Il y a des gens avec qui on cohabite. Moi, je cohabite avec des réalisateurs. Alors, je ne me dis pas quand je fais, quand je tourne le film, « Ah, je vais faire comme Jacques Tati ». Mais de fait, un homme qui est en prise avec une modernité... Qui semble lui vouloir du mal, évidemment, oui. Ça fait penser à ça. Et puis des cadrages, c'est aussi une histoire de cadrage, c'est-à-dire, il y a quelque chose d'un peu, chez Tati, il y a quelque chose de sampé aussi, c'est-à-dire des personnages tout petits dans un espace trop grand pour eux, ils sont un peu écrasés par quelque chose. Et Guillaume Canet, il est écrasé par le décor de l'hôtel, on a trouvé un hôtel, mais qui est complètement dingue, quoi, qui est un hôtel, mais qui est conçu comme un paquebot. Donc il ressemble.
C'est exactement ce que je me suis
dit. Il ressemble à un paquebot. Image, avec cette chose infiniment poétique, c'est que ce paquebot, ils l'ont posé sur un lac artificiel et il est accroché à la terre comme ça. Donc ce paquebot, il ne partira jamais, ce paquebot. Et les passagers de ce paquebot immobile, donc ce qu'est Guillaume Canet au départ, son personnage, je trouve ça. L'image que ça m'évoque, je trouve ça incroyable. Puis après. Dans une chambre trop grande, trop moderne, trop blanche, trop aseptisée, il y a quelque chose qui... Il y a une forme de parabole de son monde, qui est un monde de luxe, parce que l'hôtel est un hôtel de luxe, et ça se voit, mais qui a quand même un côté un petit peu toc. Quelque chose qui ne va pas, quoi. Quelque chose qui...
C'est du vide.
Il y a un peu du vide. Et en fait, mais c'est précisément ça, en fait, vous employez le bon mot, parce qu'en fait, c'est quand même le parcours d'un homme dont on peut penser qu'il est très plein, vu que c'est un acteur connu, il joue un acteur connu, en fait, Guillaume, dedans. Et en fait, à ce moment-là de sa vie, il y a beaucoup de vide. Et que d'autres personnages du film, dont on pourrait penser que leur vie est plus vide, en fait, elle est très remplie de choses très essentielles, quoi.
C'est la première fois que un de vos films place autant d'humour, en tout cas dans toute la première moitié, on va dire, la première partie. C'est vrai qu'il y a plein de situations en fait, qui sont des petits détails du quotidien que vit dans cette thalasso Guillaume Canet, en fait, qui va s'agacer sur des trucs qui ne marchent pas et tout, et qui s'énerve, et on se marre. Et c'est ça qui est chouette, parce que j'ai aussi trouvé qu'il y avait un parti pris stylistique assez nouveau aussi, même s'il existait déjà beaucoup de travail photographique, notamment dans Mademoiselle Chambon et la musique, mais j'en viens forcément là, inévitablement tout de suite à Vincent Delerme. Mais voilà, entre le fait qu'il y a beaucoup de plans fixes et de temps en temps des plans aériens, des travelling comme ça, avec une sinuosité, tout ça, ça nous véhicule pas mal de choses, quoi. Vous parlez tout à l'heure de cheminement, de vieillissement, de ce que je connais un tout petit peu du travail de Vincent Delerme. Je trouve que c'est, avant d'avoir écouté la BO qui est absolument sublime, il y a énormément de points communs finalement dans ce que vous avez mis dans ce film. Lui-même qui a fait un documentaire il y a 5 ans qui parlait de ça, la peur de vieillir, de grandir, l'évolution des êtres.
Et qui s'appelait Je ne sais pas si c'est quelqu'un. C'était ça le titre. Ouais, c'est ça. Et là, il vient de faire un nouveau film que j'ai vu, qui parle d'amour, qui questionne sur l'amour. Ouais. C'est renversant de sensibilité et d'intelligence. Et là, j'ai croisé la route d'un gars exceptionnel. Et d'ailleurs, il a composé une chanson pour le film là, qui va sortir.
Parce que c'est vrai qu'il fait piano et il siffle, ouais. Mais on n'entend pas sa voix. Il chante
parce que
il fait piano-voix.
Oui, parce que je trouvais que c'était à l'intérieur d'une chanson, d'un film, à l'intérieur d'un film, de faire chanter le chanteur, ça, je trouvais ça quelque chose qui n'était pas juste. Mais par contre, là, le film terminé, il a repris certains dialogues du film qu'il a intégré dans une chanson qu'il a écrite pour le film. Ça va sortir là en tout
cas. Après coup, c'est super.
Oui, après coup. Ça s'appelle Ni avec toi, ni sans toi.
Oui.
Où il susurre la phrase en italien. C'est delermien à 300%. C'est sublime de sensibilité. Et c'est une vraie chanson de Delerme. On se dit pas, tiens, il s'est forcé. C'est pas un exercice de style. Il a fait une chanson. En plus, tu n'es pas très obligé de le faire. On l'avait évoqué, cette idée. Et donc, c'est vraiment son inspiration qui a nourri cette chanson, qui est sublime, où on entend la voix d'Alba avec son accent italien, et puis Guillaume qui parle. C'est incroyable. C'est incroyable. Et j'ai rencontré quelqu'un. Alors moi, je fais fabriquer toujours la musique pendant que j'écris, mais vraiment au début de l'écriture. Et ce qui se passe, c'est que donc j'appelle Vincent Delerme, que je ne connaissais pas, et parce que j'avais entendu son travail sur le film de Suzanne Lindon. Il a fait un truc super, c'était magnifique. Et je ne savais pas qu'il pouvait faire des BO. Il en avait fait très peu, il en a fait une pour lui.
Attends, je vais couper, il y avait Monsieur...
Voilà, c'est ça.
Ah,
Monsieur Sim, ouais,
avec
Bakri.
Avec Bakri.
Ouais, film de Michel Leclerc.
J'ai cru que c'était la seule BO à ma connaissance.
Non. Alors, il y a eu cette BO-là de Michel Leclerc, il y a eu de son propre film, et puis il y a eu une BO assez courte, en fait, du film de Suzanne Lindon. Et je n'avais pas... j'avais vu Monsieur Sim, mais je n'avais pas percuté que c'était lui qui avait fait la BO. Et donc, je l'appelle et je vois le film de Suzanne un peu au moment où je suis en train de commencer à écrire mon film. Et donc, il y a quelque chose qui résonne. Et donc, je l'appelle et je lui dis, voilà, je commence à écrire un film et j'aime bien faire fabriquer la musique. Puis donc, il accueille la proposition. Bah oui, pourquoi pas, c'est quoi l'histoire? Et je lui dis, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se sont aimés, qui se sont séparés il y a 15 ans, et ils vont se retrouver par hasard dans une station balnéaire hors saison. Donc c'est déjà une chanson de Vincent Delerme, quoi, quand on raconte ça. Il me dit, bah d'accord, pourquoi pas. Il me dit, tu sais, moi je ne suis pas un spécialiste de la musique de film. Je dis, mais moi ça m'arrange parce que je travaille très souvent, ou même quasiment systématiquement, avec des compositeurs qui ne sont pas des spécialistes de musique de film. Et il est parti avec ça, et puis moi j'écrivais, et puis petit à petit, assez régulièrement, il m'envoyait ses morceaux. Et je me dis, putain, c'est dingue, c'est exactement ça. Il est exactement à l'endroit du film. C'est-à-dire, l'endroit du film, c'est l'histoire d'un amour passé, d'un amour ancien. Est-ce qu'il est complètement éteint? Est-ce que ces personnes se sont ratées parce qu'elles n'étaient pas synchrones? Tout à coup, il y a quelque chose qui se rejoue à ce moment-là. Ces deux personnes, en fait, quand elles se sont séparées, je pense il y a 15 ans, n'ont pas terminé leur histoire. Et donc, il y a quelque chose qui doit être dit. C'est pas un film de colère, c'est pas un film d'amertume, c'est un film de grande personne. Le temps est passé, lui est devenu un acteur connu, c'est ce qu'il voulait. Et à ce moment-là de sa vie, il se rend compte qu'il est, en toute objectivité, devenu quelqu'un de connu, mais il n'est peut-être pas devenu quelqu'un. Et le personnage que joue Alba, que joue sublimement Alba, sublimement, c'est incroyable ce qu'elle fait. C'est une femme qui a remisé ses rêves. La rupture avec le personnage que joue Guillaume certainement a été un coup de massue dans sa vie. C'est quelque chose qui l'a certainement fait vaciller. Elle est partie habiter, elle est restée à Quiberon, en fait, enfin, on a tourné à Quiberon. Et puis, elle s'est mariée avec un mec super, gentil, médecin. Mais cette histoire l'a abîmée, l'a fragilisée. Donc, elle s'est protégée à cet endroit-là. Elle a construit une jolie famille. Et puis à un moment, comme Meryl Streep dans Sur la route de Madison, elle va lui proposer. Meryl Streep propose à Clint Eastwood d'aller boire une limonade alors qu'elle ne c'est devrait.
Voilà. J'ai vraiment pensé à ça parce que autant Pierre vous parlait tout à l'heure de Tati pour le côté burlesque. Et je voulais voilà, terminer sur le fait que j'avais pensé « Oh, il faut que je demande à Monsieur Brisé, est-ce que quelque part sur la route de Madison ou même un petite touche de Lost in Translation là-dessus ne transpire pas un petit peu dans l'atmosphère de... »
Non,
il y a une mélancolie douce en tout cas.
Ce que je disais tout à l'heure, c'était qu'en fait, on est habité par des œuvres, on est habité et certaines de ces œuvres vont pouvoir parfois résonner. Alors ça peut être Tati, ça peut être... On peut penser à l'émotion de Sur la route de Madison, parce que ce sont des films avec, sur la route de Madison comme celui-là, avec des femmes courageuses, des femmes qui se mettent en danger, quoi. À un moment, il faut qu'elles secouent quelque chose de leur vie pour aller éprouver une émotion et se dire que faire le point sur leur vie, et c'est ce qui les relie certainement.
Montre-moi comment tu t'excuserais.
Ah, je m'excuse.
C'est ça? C'est ça, tes excuses?
Bah ouais.
Non. On va la refaire. Vraiment. Une deuxième prise. Mais vraiment, essaye vraiment de faire plaisir à l'autre. Avec plus d'intention, plus sincère. Vas-y.
Alice, vraiment, je te prie de m'excuser. Vraiment.
Merci.
Tu sais comme je suis. Tu sais déjà. Tu connais ma vie. Et ma vie me va. Ne conté ne senza dignité. Ni avec toi, ni sans toi. La terrasse, les volets fermés. Te voilà. Tu sais comme je suis. Tu sais la plage à 5 heures. Mes hivers ici. Et ma tête ailleurs. Ne conté ne senza dignité. Ni avec toi, ni sans toi. La falaise, la nuit, les rochers. Te voilà.
Tout ça existe juste dans mon téléphone. Dans ma tête aussi, oui. Sur des petits papiers, mais c'est vraiment caché en moi. Et basta.
Tu sais comme je suis, moi qui ne sais pas s'il faut dans ma vie cette histoire-là.
Tu veux vraiment que ça se termine comme ça?
Ne conté ne senza dignité.
Peut-être, oui.
Ni avec toi, ni sans toi. Le silence, la chambre au premier.
Tu peux pas dire une chose pareille.
Me voilà.
Il y a des gens comme toi et il y a des gens comme moi.
Tu sais comme je suis.
Et moi, je suis comme ça.
tous les jeudis soirs sur Radio Campus Tours. Plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle. Plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes. Sur Radio Francus. C'était.
Pardon. Merde, excuse-moi. J'ai merdé.
De retour dans Plan Séquence sur le 99.5 FM. Là, vous avez pu entendre Stéphane Brisé, dont le film Hors Saison est sorti hier, notamment au studio. Donc, voilà, si vous aimez le cinéma de Stéphane Brisé, alors pas ses trois derniers films, parce qu'on n'est pas, on est clairement pas dans du film politique, mais plutôt ce qu'il a fait dans ses premiers films. Bah voilà, mais si vous aimez par exemple du cinéma comme le cinéma de Claude Sautet, par exemple, c'est un mélodrame, voilà, comme Claude Sautet pouvait en faire à son époque. Donc on vous encourage d'y aller si vous aimez ce cinéma-là. Je vais laisser la parole à Louise, donc on va lui donner plein de force parce que c'est sa première chronique. Je sais qu'elle stresse, mais tout va bien se passer, Louise. Tu vas nous parler de Dune, mais celui qui est sorti en 1984.
Donc, oui, c'est
personne
ça.
N'était né ici.
Ouais, même pas moi, ça c'est sûr.
Ouais, ça c'est sûr.
Ouais. Ouais, donc le film Dune de David Lynch de 84. Donc en fait, c'est la première adaptation du livre Dune de Frank Herbert, sorti en 65. Donc ça a été un film, un échec commercial en fait. Ça a été énormément critiqué dès sa sortie, notamment par rapport à l'adaptation du livre, qui est pas très fidèle en fait, et notamment par un tournage qui était qualifié de catastrophique par David Lynch. En effet, ce tournage, il a commencé en septembre 83. Et en fait, il faut savoir qu'il y a eu la démission du superviseur d'effets spéciaux 90 jours après le début du tournage. De nombreuses pannes d'électricité et de nombreux techniciens malades. Et en plus, au départ, le film, à la fin, il faisait 3h30. Sauf que la Universal voulait que le film fasse 2h. Donc il y a eu de nombreux cuts, en fait. Ce qui ne donne pas une très bonne dynamique au film. Pourtant, il y avait un casting qui était plutôt intéressant, notamment avec des acteurs connus comme José Ferrer, Kyle Mike Lachlan, et aussi la présence de Sting, donc Sting, le chanteur du groupe de Police. Et surtout, la musique, elle a été faite par le groupe Toto, donc un groupe américain fondé en 76, donc de rock, et surtout le réalisateur David Lynch, qui avait déjà réalisé Elephant Man, et donc qui était déjà plutôt connu à ce moment-là. Donc moi, j'avais déjà vu ce film une première fois, mais j'ai décidé de le revoir récemment, notamment parce qu'il y a eu la sortie de Dune 2. Et donc je voulais un peu me remémorer le film, sans voir en fait le premier film, pour aller voir le deuxième. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais je trouve que ça résume plutôt pas mal le premier film, et ça m'a permis de comprendre le deuxième, parce que j'avais oublié la première partie. Donc c'est un univers qui est un peu Star Wars, avec un jeune homme qui s'appelle Paul Atreides qui va traverser des épreuves afin un peu de rendre la paix. Donc ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, c'est la mise en scène d'une violence, la violence qu'on retrouve pas mal chez David Lynch. Donc ici, il y a beaucoup plus de violence que dans le film Dune qui a été réinterprété il n'y a pas longtemps. Et aussi le développement du personnage du baron. En effet, il est beaucoup plus développé, c'est un peu le méchant charismatique. Et je trouve qu'on ne retrouve pas trop ça dans les nouveaux films. Et après, pour ce qui est un petit peu négatif, on va dire ça comme ça, c'est qu'en en fait, il y a une deuxième partie du film qui est beaucoup trop rapide. On ne comprend pas du tout. Je trouve que justement, le film a trop été modifié. La fin finit un peu en queue de poisson. On ne comprend pas trop pourquoi ça se passe comme ça et tout. Et surtout, un effet très négatif, c'est les effets spéciaux. Ils sont, comment dire ça, très vieux. Notamment avec les scènes de combat, c'est difficile de se mettre dedans. Donc voilà, j'ai quand même trouvé au final que c'était intéressant à regarder et de pouvoir comparer les deux films. Et on retrouve aussi une vision assez poétique, un peu comme dans les nouveaux films, mais qui est différente. Et c'est intéressant de voir une autre interprétation, du coup plus ancienne.
Voilà. Super Louise, c'était parfait.
Bravo.
Bravo.
Merci.
Vraiment. Et tu as vu le nouveau là, Dune 2 ?
Oui, j'ai pas trop aimé.
C'est ton droit.
Oui.
C'est ton droit.
Pas grave, j'ai déjà défendu ce film aussi.
Tu avais lu le livre ?
Non, je crois que j'avais essayé, mais j'ai pas du tout réussi. Je crois que c'est une écriture assez complexe.
Ça marche. Bah, en tout cas, si vous voulez le revoir, le film de David Lynch, il existe un peu sur tous les formats. Et notamment, j'imagine qu'il doit y avoir un DVD ou un Blu-ray qui a dû sortir. Merci, Louise. Tu parlais de Toto, du coup, qui avait signé la BO du film en 84. Bah, je vous propose qu'on s'écoute une partie de cette BO sur Radio Campus Tour.
Et viendez sur Plan Séquence le jeudi soir sur Radio Campus. Gustave et moi, on ne fait que des plans séquences quasiment. C'est la meilleure émission de cinéma qui puisse exister au monde.
Tour sur Radio Campus, sur le 99.5 FM. Après, c'est écouté une partie de cette BO de Dune signée Toto. Tout de suite, on va bifurquer à travers les genres et les décennies, puisqu'on va être en 2016 ou 2017 quand La jeune fille sans main est sortie.
2016.
Ouais. Le premier film de long métrage de Sébastien Lodenbach qui est repassé au studio à Tours, Sarah.
C'est ça, donc La jeune fille sans main de 2016. Moi, j'ai eu l'occasion de le revoir là au studio pour la séance ciné ado. Je l'avais revu, mais je crois que la première fois que je l'ai vu, ça devait être sur Arte, puisque c'était un petit trésor qui traînait sur Arte. Aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'on peut se le procurer. Je pense que ça peut se trouver. Et donc, effectivement, Sébastien Lodenbach. Alors, on lui connaît, j'ai envie de dire surtout, parce qu'il y a eu les Césars du meilleur film d'animation en 2024. Là, Linda veut du poulet, qu'il a co-réalisé avec Chiara Malta. Et au final, leur travail s'est toujours retrouvé. En tout cas, ils se sont toujours un petit peu entrelacés, puisque l'histoire de La jeune fille sans main, c'est un projet semé d'embûches. Ça a été, de ce que j'ai compris dans mes recherches, un véritable panier de crabes. Et c'est lors de la résidence d'artiste dans la Villa Médicis que Chiara Malta, dont elle a bénéficié, que lui, il a pu reprendre les bases de son projet, puisqu'il a eu de nombreux abandons de financeurs. Il a pu donc reprendre ce projet à ce moment-là et il a absolument pas suivi les ébauches du projet. Il a tout fait tout seul ça donne un film d'animation, un long métrage d'animation vraiment extrêmement réussi. Donc il dure 1h16. On y retrouve les voix d'Anaïs Desmoustiers, on y retrouve Jérémy El-Kaïm qui fait le prince et Lodenbach qui fait lui-même la voix du malin, du diable. C'est un long métrage librement inspiré du conte méconnu des frères Grimm, le conte éponyme. Le pitch est assez simple, c'est un meunier sans le sou, ou devrais-je dire sans le seau d'eau, puisque c'est une sécheresse et il n'y a plus d'eau pour faire tourner la roue du moulin. Et ce meunier est approché par le diable. Et donc ce dernier lui propose de devenir riche en échange de sa fille. Et parce qu'elle est jugée trop pure par le diable, son propre père lui coupe les deux mains à la hache. Elle fuit et survit dans la nature, elle rencontre un prince, ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, ils ont un enfant et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le plaisir de le découvrir, ça reste un conte, la fin en général est heureuse. La jeune fille sans main s'inscrit dans la tradition du conte. Donc on a une héroïne, une quête, de nombreux obstacles sur une route sinueuse, des alliés et des ennemis. Le film propose aussi une vision très pure, et c'est peut-être ce que j'ai préféré dans ce long métrage, une vision très pure et non pas puritaine de cette jeune fille déterminée et étonnante qui se laisse aller à son désir et à ses envies, qui a le courage chevillé au corps et qui refuse d'être le pantin des hommes. Le film aborde des thématiques chères au conte, la vertu à l'épreuve des caprices et des péchés. On y retrouve une profonde authenticité dans la manière de montrer la beauté et l'horreur, la douleur et la douceur, la violence, la mort et la vie. Et peut-être que s'il y a quelque chose qu'il faut retenir du film, en tout cas c'est ce qui nous saisit lorsqu'on le regarde, c'est l'impression, on a l'impression que le film respire. Le trait n'est pas fini, c'est une esquisse légère. C'est comme en surimpression, les plans se complètent et nous livrent un tout, que ce soit un paysage ou un visage. Et je vais vous quitter sur cette citation de l'auteur qui parle de son projet à propos de ce trait qui n'est pas fini. « Je n'avais donc que mes mains pour animer cette jeune fille qui n'en avait plus. Et bien souvent, je me suis identifiée à elle. » Il en résulte un film qui donne une grande importance au dessin, un dessin léger et parsemé de trous, qui bien souvent ne trouve sa cohérence que lors de sa mise en mouvement, ce qui est l'essence de l'animation. Contrairement à la grande majorité des longs métrages d'animation dans lesquels chaque image est totalement finie, La jeune fille sans main propose une image qui n'est pas finie, ou pour le dire autrement, qui est infinie. J'aime à penser que cet infini ouvre l'imagination du spectateur dont le cerveau en manque, doit travailler pour en combler les lacunes, tout comme cette jeune fille dont l'absence béante de main l'oblige à avancer. Voilà, je vous le conseille chaudement.
Idem. Et idem aussi pour Linda du poulet. Oui. Et c'est intéressant ce que tu disais sur l'animation, le fait que le trait soit pas fini et du coup donner au spectateur voilà, l'idée de refaire le dessin, mais en tout cas poursuivre l'esquisse de Sébastien Lodenbach. Et c'était un peu ça aussi dans Linda veut du poulet. Mmh. Et là, que ce soit La jeune fille sans main ou Linda veut du poulet, c'est des films malheureusement, ou même dans un autre registre, dans le cinéma d'animation Sirocco, là, qui est sorti en fin d'année, c'est des films malheureusement qui n'ont pas rencontré le public malgré voilà, que ce soit des petits bijoux du cinéma d'animation. Et c'est dommage, donc. C'est dommage dans le sens où je ne sais pas si après ils retrouveront des financeurs pour refaire des films aussi beaux que ceux-là. Et c'est pour ça qu'on vous encourage vraiment, quand il y a des films comme ça qui sortent, vraiment allez-y les yeux fermés avec vos... Enfin, pas celui-là pas avec vos enfants, mais sur certains, en tout cas en famille, parce que c'est... Effectivement, ce n'est pas de l'animation qu'on a l'habitude de voir. Mais vraiment, moi, je vous incite vraiment, c'est des petits films sur, alors pas celui-là, mais sur, des fois sur l'enfance, sur, et avec des animations qu'on n'a pas vues ailleurs, qui ont des références, des fois, du cinéma d'animation japonaise. Et on a la chance en France d'avoir des grandes écoles de cinéma d'animation, à Paris, les Gobelins, ou dans le sud de la France, l'école de la Poudrière. Et vraiment, par exemple, Pierre-Luc Grandjean, qui a co-réalisé Léo ou la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. Alors celui-là, il a eu beaucoup de succès parce que le film est en volume. Et du coup, là, le cinéma en volume avec des marionnettes, ça, les gens sont...
Enfin, c'est plus grand public, ouais, enfin disons
plus,
que ça, oui.
Plus grand public,
c'est plus approchable.
Mais je trouve ça, ouais, j'étais déçue par les entrées, ouais, Linda qui est alors peut-être que le César va lui donner un nouveau souffle aussi au film, mais même Sirocco, le film je le trouve extraordinaire, quoi.
Puis La jeune fille sans main, bon, tu le sais pas quand tu regardes le découvres, mais il est très confidentiel, c'est vrai, parce que moi j'en ai très peu entendu parler, je l'ai découvert comme ça par hasard. Mais c'est surtout quand tu apprends à quel point Sébastien Lodenbach a peiné à l'accoucher, en fait, et les difficultés financières. C'est et donc, quand tu parles justement de moyens financiers pour faire son art, il est d'une telle beauté prodigieuse que oui, il ne faut pas se priver d'essayer de se le procurer et de le regarder.
Et quand Sirocco, pareil, sortira en DVD, ce qui est sorti au mois de décembre, vraiment, regardez-le même en famille. Et pareil, Benoît Chieux, il a mis 10 ans à faire Sirocco. Donc, c'est son premier long métrage. La jeune fille sans main, pareil, premier long métrage. Donc, vraiment, soutenez ces réalisateurs-là, parce que c'est vraiment des grands noms. Et on n'a rien à envier au cinéma d'animation américaine, même si j'aime beaucoup les cinémas d'animation américains. Mais vraiment, ouais. On a de la chance d'avoir des grands noms du cinéma d'animation. D'ailleurs, aux États-Unis, on nous les pique des fois pour faire de l'animation. Hein, donc, ça veut tout dire.
Et d'autant plus qu'ici, à Tours, on a les studios qui ont vraiment une très bonne programmation en termes de films d'animation. C'est-à-dire que ce n'est pas dans n'importe quelle ville où on peut voir des films d'animation justement un peu confidentiels, comme ceux que vous avez cités là, qui sont sortis ces derniers mois. Donc, faut aussi d'autant plus en profiter, vous qui écoutez cette radio et qui donc habitez dans la métropole, vraiment aller au studio pour soutenir ces films-là. Parce que de par leur programmation jeune public, entre guillemets, ils ont souvent des très bons films d'animation un peu qui passent sous les radars.
Complètement. Complètement d'accord. On va passer une musique d'Olivier Mélano dans La jeune fille sans main, et puis on se retrouve dans quelques minutes.
No more cheeks, no more eyes, no more, no more legs, no more neck, no more back. No more, no more breast, no more tongue, no more hands, I'm a wild girl.
C'est quoi un plan séquence? Bah, c'est pas un jeu de mots extraordinaire, mais j'ai essayé de trouver un truc un peu drôle pour annoncer cette émission Plan Séquence qui émet à partir et pour Radio Campus Tours. Et vous êtes évidemment nombreux à écouter ce plan. C'est quoi plan séquence? Voilà, c'était de l'humour de première main. Diffusé lui-même par Bruno Podalides, qui fait ce qu'il peut. Hein. C'est pas non plus extraordinaire, mais il a tenté. C'est tout à fait louable d'essayer, d'expérimenter, de se confronter à la dureté du réel. Voilà, à bientôt.
Merci encore Bruno Podalides pour ce jingle. On va tout de suite terminer l'émission par un film allemand qui est sorti la semaine dernière, ou il y a deux semaines même maintenant, La salle des profs.
Oui, tout à fait. Donc, il est sorti le 6 mars, pour être exact, donc ça doit bien faire deux semaines. Donc, réalisé par Ilker Satak. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Désolé pour l'écorchement du nom. Donc, c'est un film allemand. Donc, si je vous dis un peu le casting, ça ne vous dira peut-être rien. Léonie Benesch, Michael Klammer et Raphaël Stachowiak. Et sachant que du coup, il y a potentiellement un ou deux noms là-dedans qui sonnent un peu polonais. En tout cas, il y a des personnages dans l'histoire qui sont polonais, et ça pourra peut-être prendre du sens dans une partie du sous-texte du film que je ne vous révèle pas. Pour dire un petit peu de quoi ça parle, Y a un synopsis sur Allociné qui est très concis et du coup qui résume très bien pour moi le fait qu'il ne faut pas non plus trop en savoir. Alors qu'une série de vols a lieu en salle des profs, Carla Novak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne. Très vite, tout l'établissement est ébranlé par ses découvertes. Voilà, il n'y a pas vraiment besoin d'en savoir plus pour découvrir le film, parce que du coup, il y a une espèce de dimension quand même de suspense et de révélation pendant le film. Et en fait, il va un peu tirer cette corde de se demander à chaque fois comment est-ce que la situation peut empirer. On va vraiment aller du pire en pire, un peu une espèce de descente aux enfers. Et en allant voir le film, je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait faire un film intéressant et tendu à partir de, globalement, du vol d'argent de poche. Hein, on est vraiment là-dessus à la base. Et en fait, cette histoire-là est vraiment un prétexte pour nous parler de ce que c'est que le système scolaire en Allemagne et comment est-ce qu'il peut prendre une dimension oppressive. Et d'ailleurs, il y a parfois certains parallèles dans les dialogues et dans les situations qui sont faits avec des sous-textes politiques, et en Allemagne ça prend énormément de sens, parce que du coup il y a cette dimension, parfois il y a un moment dans le film où le mot fascisme est utilisé, et en fait ça prend sens vis-à-vis du coup de toutes les méthodes que vont avoir le personnel enseignant pour découvrir qui est coupable de ces vols, et après une fois qu'on va avoir des découvertes, pour en savoir toujours plus, et donc c'est vraiment assez édifiant. Et ça met le doigt, je trouve, sur quelque chose que j'avais pas vraiment vu au cinéma avant. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de films qui en parlent, mais en tout cas, j'en avais pas vu. Qui parle justement de cette dimension-là du système scolaire. Et pour le coup, il y a plein de choses qui sont pas spécifiques à l'Allemagne. Et il y a même certains trucs où je me dis que, en voyant le film, que moi, quand j'étais à l'école, c'était pas aussi cool. Pour autant, quand on avance dans le film, plus on avance, moins c'est cool. Et plus on se dit que c'est des méthodes extrêmement douteuses et qui peuvent en fait exister dans tous les établissements scolaires, autant en Allemagne qu'en France et que partout ailleurs. Donc ça fait vraiment, c'est vraiment assez troublant. Et du coup, on suit une héroïne qui donc est une prof et qui va essayer de résoudre la situation. Et plus elle va essayer, plus le tout va s'empirer. Le film du coup a un format d'image un peu intéressant, donc je crois que c'est du 4 tiers, en tout cas c'est un format plus étroit que la plupart des films que vous pourrez voir au cinéma. Alors, c'est pas non plus du format carré comme pouvait être par exemple Mommy de Xavier Dolan, mais c'est plus, ça va peut-être plus vous évoquer un aspect vieux film entre guillemets, ce format d'image là, et en fait c'est un classique des films anxiogènes, des films où on veut sentir enfermé, voilà. Et du coup, ça prend sens dans ce film-là, parce qu'on n'est pas non plus sur un huis clos, mais on est quasiment toujours, je crois qu'on est toujours dans l'enceinte du lycée.
Oui, c'est ce que je, pendant que t'en parles, en fait, à très peu de moments, il y a quelques plans où elle sort, mais en fait, on est toujours néanmoins dans l'enceinte de l'établissement. Ouais.
C'est ça, de temps en temps, on est un petit peu à l'extérieur, mais en fait, on reste vraiment globalement là-dedans, donc ça prend sens. Et puis surtout, le film se veut avoir une dimension complètement anxiogène, donc ça fonctionne très bien. Je trouve d'ailleurs que l'interprétation de l'actrice principale est assez géniale, et aussi un des gamins dont il est question, qui est assez au centre de l'histoire, donc qui joue le personnage d'Oscar, qui pareil, je l'ai trouvé vraiment très juste, et c'est assez rare les très bonnes performances d'enfants acteurs pour être soulignées. Voilà, donc c'est vraiment un film que je vous recommande. En plus, il est plutôt très accessible. Je dirais pas que c'est un film où faut arriver préparé. Enfin, tout à l'heure, hors antenne, on parlait du Successeur, qui est un film où il faut avoir un peu les tripes accrochées. Là, la salle des profs, je pense que c'est beaucoup plus tout public, entre guillemets. C'est-à-dire que ça reste des dialogues et des situations, mais juste, c'est relativement anxiogène, quoi. Donc voilà, comme je vous le disais quand on a annoncé la chronique tout à l'heure, le film a été nominé comme représentant de l'Allemagne du coup aux Oscars pour le meilleur film étranger, et au final c'est un autre film en allemand mais réalisé par un Britannique qui a remporté le prix. Bon, je dis pas que moi j'aurais donné l'Oscar à la salle des profs, parce que bon, la zone d'intérêt c'est quand même un autre niveau, mais franchement, comme petit thriller du samedi soir, ça peut vraiment très très bien faire l'affaire.
Oui, c'est ça, et il y a une musique aussi qui amène ce suspense-là et qui fait qu'on est aussi... En plus, il doit y avoir un contre-temps à musique. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'elle était un peu en décalage certaines fois par rapport aux événements. Ça ne m'a pas perturbé, mais je l'ai noté. Et comme, par contre, le successeur, c'est un... Tu ne vois pas... Enfin, tu es tout le temps dans le doute, en fait. Tu ne sais jamais comment ça va... forcément évoluer comme le personnage va l'être, et t'avances en même temps que ce personnage-là, et tu n'as jamais une longueur, quasiment jamais une longueur d'avance sur elle, là, dans le film. Ouais. Ni comme dans le successeur.
Bah, y a cette idée, oui, donc, que la vérité est trouble, ouais, et qu'on n'y aura pas vraiment, ouais, accès. Bah, d'ailleurs, c'est aussi ce que j'avais adoré dans Anatomie d'une chute l'année dernière. Donc, j'aime beaucoup le fait que des films prennent un peu ce sujet-là sous cet angle. Et puis, pour le coup, j'ai l'impression que une fois qu'on a vu le film, avec le recul, on se dit que ça ne parle pas tant d'une histoire de vol et de pourquoi telle personne aurait volé telle chose, mais plutôt du rapport d'une enseignante à un système. Parce qu'elle va se retrouver un peu le bras armé de ce système. En fait, un peu, parfois, elle croit en ces méthodes-là, parfois c'est un peu malgré elle. Et en fait, ce doute, il est instauré dès le début, tu vois, dès le tout premier espèce d'interrogatoire qu'on voit, qui arrive très très tôt dans le film, où elle, on voit tout de suite qu'elle désapprouve les méthodes, mais que elle peut pas devant les gamins dire qu'elle est pas d'accord. Et puis en fait on voit où ça va mener, mais c'est ça vraiment que je trouve passionnant, parce que je pense que au-delà même du système scolaire, dans plein de, je pense, de milieux de professionnels, on a pu tous se retrouver un jour à devoir appliquer une politique qu'on n'approuve pas pour une raison X ou Y, et en l'occurrence là pour une raison professionnelle. Et donc en fait, jusqu'où on peut aller, j'ai l'impression que le film parle aussi de ça, de jusqu'où on peut aller contre ses convictions parce qu'on pense que c'est pour le bien commun.
Ouais. Et là, vu que tu parles de ça, moi ça me fait penser à d'autres films sur institutions scolaires et à des plus anciens films, alors pas forcément là sur des histoires de vol, parce qu'effectivement, comme tu as dit, c'est un prétexte aussi pour parler d'autres choses. Oui. Moi, j'ai adoré un film de Bertrand Tavernier qui s'appelle Ça commence aujourd'hui, avec Philippe Torreton, où il était confronté à une misère sociale, lui, dans le film. Il était enseignant en école maternelle. Et en fait, il allait au-delà de son rôle d'instituteur, en fait, en protégeant ses enfants, limite en leur donnant à manger, parce qu'il savait que leurs parents ne pouvaient pas leur donner à manger. Mais il se faisait réprimander par le maire, par la direction, le rectorat, enfin en tout cas des gens plus haut placés, en disant c'est pas votre rôle. Oui, mais du coup c'est le rôle de qui, en fait? Donc
Il y a aussi la question aussi de où est la place de l'enseignant. Ouais. C'est
ça. Donc effectivement, ces films-là, il y en a peu sur le système éducatif. On pense à Entre les murs aussi, qui était vachement bien.
Mais t'as Pas de vague là qui va sortir. Ah oui, ouais. J'ai vu la bande-annonce là.
Je pense qu'il y en a plusieurs, effectivement, là, qui sortent aussi.
En tout cas, qui sortent là. Mais je crois qu'on commence un peu à se préoccuper peut-être des conditions de travail des professeurs. Ouais. Ouais.
Et puis alors là, dans celui-ci, du coup, les conditions de travail sont bien mises à mal, quoi.
Ouais, complètement. Et d'ailleurs, ça m'a interrogé sur les profs en Allemagne, parce qu'elle est prof principale. Au début, d'ailleurs, je pensais qu'elle avait une seule et même classe, en fait, à plusieurs. J'ai l'impression qu'elle faisait plusieurs cours à la même classe. Donc je me suis dit, tiens, ils sont pas au collège, ils sont fin primaire.
Oui, au début,
tu vois,
moi, j'ai cru que c'était plutôt une institutrice.
Ouais. Et puis après, je me suis dit, non, c'est prof principale. Ils ont d'autres cours, ces élèves-là, mais c'est une prof qui fait à la fois du sport et des mathématiques. Donc
Système scolaire doit être foutu différemment. Mais c'est là aussi où je me suis dit que le système scolaire français avait à en apprendre, parce qu'il y a vraiment, du coup, elle a quand même une proximité avec ses élèves, une relation de confiance que, enfin, moi personnellement au collège, j'avais pas du tout avec mes professeurs, quoi. Mes professeurs, même les professeurs principaux, on attendait devant la classe, on allait en cours, et puis quand c'était fini, il y avait pas grand chose de plus. Là vraiment, elle a une relation de confiance avec ses élèves, et c'est aussi ça qui est passionnant, parce que c'est ça qui va être mis à mal.
Et je me demande si d'ailleurs les profs, notamment en Allemagne, ne sont pas mieux payés. Je me demande s'il n'y a pas une reconnaissance, une considération que les profs français n'ont pas, pour le dire.
Ouais.
C'est possible. En tout cas, c'est vrai que ça interroge beaucoup sur ce système-là, et je pense que c'est vraiment le but du film. Donc allez le voir et allez
questionner. On vous encourage à aller voir la salle des profs. On va se quitter, il est 19h59. On va vous laisser avec Reggae Stories. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour vous parler cinéma, encore et toujours, sur Radio Campus Tour. On finit à l'heure aujourd'hui, c'est beau. Rediffusion samedi midi, podcast dans le week-end, et puis allez dans les salles. Ciao.
Ciao.
À bientôt.
Au revoir.